Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h où l'info la plus rigoureuse côtoie l'humour le plus exigeant, sauf parfois. Comme vendredi, quand, certainement excitée par l'arrivée du week-end, Céline Dacosta a choisi de nous révéler la blagounette potache qu'elle aime bien faire durant les concerts de Patrick Bruel. Accrochez-vous, ça peut secouer.
Quand Patrick Bruel chantait « Où es-tu ?» on disait « Dans ton cul
oh, !» Heureusement, Debout les copains ne mise pas que sur le rire, mais aussi sur l'info. Juste après le journal, on retrouvera le monsieur histoire d'Europe 1, Fabrice Delmeda. Il reviendra sur ce phénomène qui agite les États-Unis depuis plusieurs semaines maintenant, le shutdown. Phénomène récurrent, on t'a senti.
C'est plus drôle pendant le concert. Merci d'écouter Europe 1. Nous sommes le lundi 14 janvier, il est 6h. Très bon réveil à tous. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi 14 janvier. Bonjour Céline Galman.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Une lettre d'Emmanuel Macron pour sortir de la crise. Le chef de l'État pose une trentaine de questions et tente de cadrer la consultation nationale qui s'ouvre demain. La femme de Carlos Ghosn demande à une ONG sur les droits de l'homme de se pencher sur le cas de son mari et du traitement sévère qui lui serait réservé en prison au Japon. Et puis la colère des supporters marseillais après le nul de leur équipe un partout hier soir au Vélodrome face à Monaco. Jérôme Lacroix reviendra dans son journal des sports.
Europe 1.
Le 31 décembre dernier, lors de ses vœux, Emmanuel Macron avait promis une lettre. Elle a donc été publiée hier soir. Un long texte où le chef de l'État invite les Français à formuler des propositions pour permettre de bâtir un nouveau contrat pour la nation. J'entends transformer avec vous les colères en solutions, écrit le président de la République. Au total, il pose 34 questions pour introduire le débat national qui doit débuter demain à Fréjus, ville dirigée par le Rassemblement national. C'est une équipe de militants de La République En Marche qui planche sur l'organisation du débat, des militants qui comptent sur la participation de tous, comme a pu le constater pour Europe 1 Frédéric Michel.
Comme tous les samedis depuis 3 semaines, c'est dans un salon de thé face à la mairie de Fréjus que ces marcheurs se réunissent.
Donc nous avons déjà préparé le sujet sur la transition écologique.
Autour de la table, ils sont une demi-douzaine. La salle, la date et les idées pour communiquer ont été vite trouvées. Alors désormais, ils se consacrent au thème du grand débat national. Aujourd'hui, la démocratie et notamment comment mieux associer le citoyen aux prises de décision.
Vous avez des idées sur ce sujet ?
Que le député ait 2 sons de cloche en même temps, parce qu'un son de cloche...
Et chacun échange sa vision sur la façon de mener le débat.
Je pense qu'il faut se donner les moyens d'expliquer davantage la politique du gouvernement.
J'attire votre attention quand même. Dans la situation actuelle, les oreilles sont fermées. L'énorme effort que nous avons à faire, c'est justement, dans un premier temps, de ne pas donner d'explications, mais de structurer une écoute.
Tout à fait d'accord avec Jacques. On n'est pas là pour faire la promotion, on est là pour savoir ce qu'attendent les gens.
Catherine Blanc pilote le comité LREM Fréjus Var.
Ce sont les Gilets jaunes qui ont accentué cette urgence de traiter de tous ces sujets. Donc il ne s'agit pas pour nous de véhiculer exclusivement les mots d'ordre de La République En Marche.
Et ces marcheurs insistent, le débat est ouvert aux Gilets jaunes, mais surtout à l'ensemble des Français.
Le reportage signé Frédéric Michel pour Europe 1. Laurent Wauquiez a lui publié sa propre lettre hier sur Facebook. Il appelle à apporter d'urgence de vraies réponses aux colères. Il met en garde contre un grand débat qui, je le cite, risque d'être un artifice grossier. Aujourd'hui, Édouard Philippe doit préciser les modalités de ce grand débat qui, pour le piloter après la défection de Chantal Jouanneau. Des centaines de femmes Gilets jaunes ont défilé hier de façon pacifique dans les rues de Toulouse, Perpignan, Pau ou encore Bordeaux. Des manifestations dans le calme, contrairement à celle de samedi où 19 membres des forces de l'ordre ont été blessés, 13 du côté des manifestants.
Et cette question ce matin, Céline, s'il s'agissait d'une erreur judiciaire, une étrange affaire est rejugée à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis.
Oui, celle du meurtre de Pierre Benoît, 85 ans, ancien propriétaire du théâtre Le Vieux Colombier à Paris. L'accusé, condamné à 25 ans de prison en première instance, a fait appel. Il se dit innocent. Ses avocats pointe d'autres pistes trop vite écartées. Guillaume Bier.
Il a le profil du coupable idéal. Moussa Al-Kurdi, artisan décorateur, connaissait la victime. Il devait faire des travaux chez ce vieil homme fortuné. L'accusé lui aurait volé des objets et voulu encaisser 2 chèques falsifiés après la mort de l'octogénaire. Son ADN a même été retrouvé sur la scène de crime. Mais depuis le premier jour, le suspect nie en bloc être le meurtrier. Et pour ses nouveaux avocats, Clarisse Serre et Hubert Delarue, il y a des choses qui ne collent pas dans ce dossier.
Il n'a pas le profil d'un tueur. Et des pistes extrêmement sérieuses ont été négligées ou rapidement abandonnées par les enquêteurs, laissant à penser que d'autres personnes entendues dans cette procédure peuvent avoir une responsabilité dans la mort de Pierre Benoît.
Car l'avocat souligne que d'autres traces ADN ont été retrouvées sur cette scène de crime, dont les légistes d'ailleurs n'ont jamais pu déterminer la date précise, dans un appartement mystérieusement fermée de l'intérieur. Une affaire pleine de zones d'ombre et de doutes autour d'un accusé qui, depuis 5 ans, clame son innocence.
Guillaume Biais, le verdict est attendu en fin de semaine. Autre procès, celui du viol du 36 quai des Orfèvres. Deux policiers de la BRI comparaissent pour viol en réunion sur une touriste canadienne. Les faits se seraient déroulés en avril 2014 dans l'ancien siège de la PJ parisienne. La cagnotte de soutien ouverte pour les familles des deux pompiers morts dans l'explosion au gaz rue de Trévise à Paris samedi atteint ce matin plus de 164 000 euros. L'ex-activiste d'extrême gauche Cesare Battisti, remis hier par la Bolivie aux autorités italiennes à Santa Cruz, condamné par contumace à la perpétuité dans les années 70. Cesare Battisti, 64 ans, arrivera en Italie en fin de matinée. Il se trouve en ce moment dans un avion envoyé depuis Rome pour son transfèrement.
Europe 1, il est 6h05.
Une semaine de plus pour l'exposition Basquiat à la Fondation Louis Vuitton.
Oui, l'expo devait se fermer ce soir, elle est prolongée de quelques jours. L'expo Schiele, qui avait débuté au même moment, ferme comme prévu ce soir à 20h. Pourquoi cette différence? Explication avec Diane Chinouda.
Une semaine de plus pour Basquiat, en effet, grâce à la générosité des prêteurs. C'est un cadeau qu'ils nous font, nous dit-on à la Fondation Vuitton. Mais ce qui est possible pour Basquiat ne l'est pas pour Schiele. D'abord pour des raisons de fragilité des œuvres, comme l'explique Jean-Paul Claverie, le conseiller de Bernard Arnault à la Fondation Vuitton.
Beaucoup de ces œuvres sont sur papier, sont des dessins, des aquarelles, et le temps d'exposition d'une œuvre sur papier est limité pour préserver l'intégrité de l'œuvre elle-même. Basquiat, ce sont des peintures, les règles de conservation sont beaucoup moins strictes que les œuvres sur papier et les dessins et les aquarelles.
Donc ça se joue bien à une semaine près. D'autant que la Fondation Vuitton doit absolument respecter l'accord passé avec les collectionneurs privés qui ont prêté leurs œuvres. Des dessins et aquarelles qui ne peuvent pas être exposés plus de 3 bons mois et devront ensuite rester à l'abri pendant 6 mois. Des œuvres pourtant protégées par des verres anti-UV, mais cela ne suffit pas. Elles sont également peu éclairées pour mieux les conserver.
Diane Chenouda pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Ou devrais-je dire la boule de vis, Céline Kallmann. Car sous un sourire trompeur, c'est bien le fiel qui coule dans les veines de la terrible Suissesse. Céline qui ne passe rien à ses collègues. Il suffit qu'on ait la voix qui chevrotte un tout petit peu l'espace de quelques secondes et pam, la sanction tombe, c'est petit, c'est abject. C'est Céline Kallmann. Les premiers bugs apparaissent, mais Bercy veut rassurer le contribuable.
Moi ?
Oui.
Pas du tout.
Si.
Moi, je dis chacun dans son canton et les vaches sont bien gardées.
Ça, c'est vrai, ça. Europe 1. Il est 6h07, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et ce matin, Fabrice Dalméda se penche sur cet événement, certes récurrent aux États-Unis, mais qui est là en train de battre des records de durée, le shutdown.
Il est 6h09, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo de ce lundi avec vous, Céline Dacosta. Un peu de soleil aujourd'hui.
Oui, un petit peu. Ce matin, sur un petit quart nord-ouest de la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France et à la région parisienne. Soleil qui va gagner quasiment toute la moitié ouest cet après-midi. Soleil aussi près de la Méditerranée auprès d'un vent très fort. Partout ailleurs, c'est nuageux, faiblement pluvieux. De la neige sur les reliefs. Ce risque d'avalanche toujours très élevé sur les Alpes du Nord. Le tout sous des températures encore très douces, puisqu'on aura cet après-midi une moyenne de 7 à 12 degrés, 14 à 18 même près de la Méditerranée.
Merci, Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il nous a rejoint dans ce studio avec dans le regard cette étincelle de fierté qui signifie que oui, Jérôme Lacroix a enfin conclu ce week-end avec Céline Dacosta.
Oh là là.
Ça y est, ils se connaissent, enfin pour le dire pudiquement. Alors Céline, c'était beau ?
Un petit escargot de mer.
C'était beau, la soirée était bien quoi. Bref, passons vite au journal des sports, on vous écoute, petit escargot de mer. Allez. Picsou et les Raptou, qu'est-ce que c'est que ça ?
On a pu voir hier soir dans les tribunes du stade Vélodrome de Marseille, oui, des structures en carton, caricatures des joueurs et des dirigeants de l'OM, en frère Raptou et en oncle Picsou, en portant des gros sacs d'or. Alors on va appeler ça de l'inventivité, des supporters en colère qui estiment que les joueurs ne mouillent pas assez le maillot phocéen. Ambiance tendue après 8 matchs sans victoire. Hier soir, pendant toute la partie de Ligue 1 contre Monaco, 20e journée, c'était ça. Depuis les tribunes, sifflets, chants hostiles. Alors score final, 1-1. Pas de quoi apaiser les esprits, si bien qu'à la fin de la partie, plusieurs joueurs cadres, dont le gardien Steve Mandanda, ont discuté dans le calme avec des fans en colère.
On va avoir besoin de tout le monde, et notamment de nos supporters. C'est le discours qu'on a un peu essayé de leur tenir. C'est que c'est sûr, ce qui est fait déjà depuis le début de saison est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Mais si on veut bien finir, ça sera tous ensemble et avec leur soutien.
Des propos recueillis par Jean-François Pérez pour Europe 1. Au classement, les Marseillais sont 9e à 5 points du podium. Les Monégasques, emmenés hier soir par leur recrue star, l'Espagnol Cesc Fabregas, déjà très influent, eux sont toujours avant-dernier du classement.
Le tennis et Roger Federer pour marquer encore un peu plus l'histoire.
Il entre en lice aujourd'hui à l'Open d'Australie, premier grand chelem de l'année face à l'Ouzbek Istomin, 101e mondial. Federer, double tenant du titre, vise à Melbourne un 7e sacre qui serait record. Il est toujours là à 37 ans. Mais se voit-il favori cette année ?
Je ne trouve pas, non. Je pense quand même avec les derniers 6 mois de Djoko qui est revenu méga fort, ça doit être quand même lui. De mon côté, je suis très content où je me retrouve. Après 2 années incroyables ici, que je reviens ici et que je me sens aussi bien, c'était le souhait. Voilà, alors j'espère de me mettre forcément dans une position où aussi moi-même je peux gagner ce titre.
Des propos recueillis par Christophe Taureau pour Europe 1 cette nuit. Nadal qualifié après 4 mois d'absence. On attend Murray aujourd'hui, fatigué après une longue blessure. Côté français, élimination dès le premier tour de Kristina Mladenovic. C'est passé pour Caroline Garcia qui élimine une autre française, Jessica Poncher. Adrian Manarino, lui, a été sorti par le Sud-Africain Anderson côté garçon. À suivre aujourd'hui, Gaël Monfils. Le Dakar au Pérou, 6e étape et 3e succès d'étape pour Sébastien Loeb. Le pilote français deuxième au classement général avec tout de même plus de 37 minutes de retard sur le Qatari Al Attiyah.
On termine, Jérôme, par l'histoire du jour.
On parlait de Federer et de ses records. Je vous parle d'un autre monstre de l'histoire du sport, Lionel Messi avec Barcelone. Le footballeur argentin a marqué hier son 400e but en championnat d'Espagne. Record absolu, mais surtout, c'est quand on regarde son ratio de buts par match qu'on prend vraiment une claque. Près d'un but à chaque rencontre, 0,92 buts par match en moyenne, 400 buts en 435 rencontres.
Impressionnant. Merci beaucoup. C'était le journal des sports du Petit Escargot de Mer. Jérôme Lacroix nous a rejoint dans ce studio l'ineffable Fabrice d'Almeida, le monsieur histoire d'Europe 1. En fait, Fabrice, vous qui savez tout, d'où notre journaliste sportif Jérôme Lacroix tire-t-il cette endurance extraordinaire ?
On lui aurait frotté les lèvres à l'ail pour le fortifier.
Ah, voilà, voilà donc d'où vient cette robustesse. Allez, tout de suite, c'est historique. On traverse l'Atlantique.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice d'Almeida.
Bonjour à tous.
Donald Trump vient de battre un record, celui de la plus grande interruption budgétaire de l'administration fédérale, ce qu'on appelle le shutdown. C'est historique.
Bah en fait, pendant 200 ans après leur indépendance et l'adoption de leur constitution, les États-Unis n'avaient jamais connu de blocage. Mais en 1976, le président Gerald Ford a mis son veto sur les dépenses budgétaires du secteur de la santé et de l'éducation voulues par le Congrès. Cela a stoppé pendant 10 jours la mise en œuvre du budget. Et après cela, les shutdowns se sont multipliés comme des signaux politiques. 21 depuis 1976, mais avec un grand changement intervenu sous Bill Clinton.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, c'est devenu idéologique. Clinton, le président démocrate, était face à une majorité républicaine à la Chambre très marquée par le néolibéralisme. En 1995 et 1996, ces derniers veulent réduire le gouvernement fédéral alors que Clinton présente un budget à l'équilibre. Clinton tient bon et après 23 jours, c'était le record. Les républicains renoncent car leur popularité s'est effondrée.
Et c'est ce qu'espère Donald Trump.
Bah oui, mais avec une nuance. L'objectif de Trump n'est pas de reconquérir le cœur de tous les Américains, mais celui de son électorat extrémiste qui commence à s'éloigner de lui. D'où le choix du thème du mur anti-immigration et de son financement pour établir un nouveau record de shutdown et manifester ainsi sa détermination à défendre l'Amérique traditionnaliste. Il espère aussi ressouder l'ensemble des républicains en blâmant les démocrates. Comme cette stratégie semble marcher, il prolonge la crise alors qu'il pouvait et peut toujours y mettre fin en déclarant l'urgence nationale pour construire son mur. Cela serait une vraie première historique, une sortie de crise sans que personne ne perde la passe.
Merci beaucoup Fabrice d'Almeida pour cette analyse. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, il est 6h15, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. Et ce matin, alors que le mercato d'hiver bat son plein, nous recevrons Bruno Satin, un agent sportif qui a accepté, alors qu'il a pourtant 2-3 dossiers un peu chauds à gérer, de nous dévoiler les coulisses de son métier. Un métier qui intrigue, c'est quoi au fait le quotidien d'un agent de footballeur? Bruno Satin nous raconte.
Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron a rendu publique la lettre aux Français qu'il avait promise le 10 décembre dernier. Le chef de l'État parie désormais sur le dialogue pour sortir de la crise et transformer les colères en solutions. Il propose de baliser le débat avec une trentaine de questions portant sur quatre thèmes déjà fixés comme la démocratie, la transition écologique, la fiscalité ou l'immigration. L'ex-activiste d'extrême-gauche Cesare Battisti, remis hier par la Bolivie aux autorités italiennes à Santa Cruz, il se trouve en ce moment dans un avion envoyé depuis Rome pour son transfèrement. Enfin, du football, dans un stade Vélodrome très hostile à ses joueurs. Hier soir, l'Olympique de Marseille n'a pu faire qu'un partout face à Monaco.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 14 janvier. L'actualité sportive et footballistique en ce mois de janvier, c'est aussi le mercato. Jusqu'au 31 janvier, les clubs de foot se réorganisent pour entamer de la meilleure des façons la seconde partie du championnat. Un immense marché animé notamment par les agents sportifs. Bonjour Bruno Satin.
Bonjour.
Entre deux avions, vous avez accepté de nous raconter votre métier, un métier extrêmement mystérieux, extrêmement opaque pour beaucoup d'auditeurs. Alors ce marché des transferts, surtout divers, celui qu'on est en train de vivre, est-ce que déjà c'est une période importante pour les agents sportifs ou c'est quand même un petit mercato par rapport à celui d'été, j'imagine ? Il y a des gros transferts pendant cette période ?
Alors il peut arriver qu'il y ait des transferts importants, mais effectivement c'est plutôt ce qu'on appelle un mercato de correction. Les grands clubs qui sont encore dans la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain par exemple, qui aura certainement besoin de remédier à quelques manques au milieu de terrain.
Ah, vous avez une proposition à leur faire, visiblement.
Ouais, peut-être c'est déjà fait, même.
Ah, alors justement, Bruno Stadin, quand on voit la domination totale du Paris Saint-Germain sur la Ligue 1 et en même temps, pour l'instant, les limites de ce PSG en Ligue des Champions, est-ce que ce n'est pas handicapant pour vendre la Ligue 1 à des joueurs étrangers ? Est-ce que ça reste suffisamment sexy, la Ligue 1 ?
Il y a la Ligue 1 normale et puis il y a le Paris Saint-Germain. Donc, oui. Paris Saint-Germain, il rentre un petit peu ouais. En classement. Compte tenu à la fois de ses ambitions et de son potentiel et puis aussi de sa surface économique, quoi, hein. Donc il faut être clair, ils ont un pouvoir de séduction qui est tout à fait en phase avec les autres concurrents européens, hein. Les grands joueurs du Paris Saint-Germain sont extrêmement bien payés, donc on l'oublie souvent parce que nous on a une vision romantique du football, ce sont des joueurs professionnels, donc ils vont là où on les paye le mieux, quoi.
Alors justement, on va essayer de comprendre votre métier d'agent sportif. Déjà, l'idée, déjà pour faire simple, c'est que vous représentez un ou plusieurs joueurs de foot et vous encaissez une commission sur chaque transfert et aussi sur le salaire. Comment ça se passe ?
Alors, nous, notre rémunération, lorsqu'on représente un joueur, elle est calculée sur les émoluments du joueur. Mmh. Donc, on reçoit en général un pourcentage qui oscille en France, on va dire, entre 5 et 8% des salaires bruts du joueur.
D'accord, mais il y a une variation. Entre agents, ce n'est pas la même chose.
C'est une négociation. La loi française nous autorise à négocier entre 0 et 10.
Et comment on devient agent de joueur ? C'est quelque chose dont vous rêviez quand vous étiez petit ou ça s'est fait, je sais pas, on est fan de foot et on est fan d'argent et on devient agent sportif ? Comment ça marche ? Il y a un cursus ? Il y a une formation juridique ?
Alors bon, il y a effectivement, pour travailler en France, exercer l'activité, il faut être licencié par la Fédération française de football. Mmh. Donc il faut avoir participé à un examen qui a pris des formes différentes dans le temps, puisque moi je l'ai passé en 94, donc ça remonte un petit peu.
Et alors, c'est quoi les qualités principales requises pour être agent ?
Moi, celles qui m'ont guidé, c'est la passion, le fait de pouvoir côtoyer et être dans ce milieu. J'avais pas les qualités pour être joueur, donc je me suis rattrapé un petit peu de ce côté-là. Et puis après, c'est effectivement vouloir aimer conseiller, que ce soit les clubs ou les joueurs, et essayer de guider, d'accompagner.
Et dites-moi, vous faites un peu nounou aussi ? Il faut gérer les égos quand c'est des joueurs confirmés et l'immaturité quand ils sont encore adolescents ? Ça fait partie de l'idée d'agent ?
J'ai envie de vous dire, on est plus important quand les choses ne vont pas bien que quand elles vont bien. Les choses vont bien, ils ont besoin de personne, c'est les champions. Quand les choses vont moins bien, là, souvent, il y a besoin de remédier.
Justement, Bruno Satin, vous disiez que ça fait 30 ans que vous êtes dans ce milieu. Est-ce que vous avez l'impression que votre métier a évolué ? Et si oui, dans quel sens ?
Ah ben, ça a énormément évolué, puisque bon, on n'a plus affaire aux mêmes joueurs. Naturellement, entre-temps, l'argent a fait une irruption énorme, et les montants aujourd'hui, qui sont simplement l'argent que génère le football, est redistribué, et pour une bonne partie vers les acteurs, ce qui est normal. Donc il y a beaucoup d'argent, ça attire beaucoup de gens. Les gens dans les familles sont devenus très, très cupide et très attiré aussi. Même quand il y a un jeune qui n'a pas forcément des qualités pour faire une grande carrière, ils pensent qu'ils vont gagner des millions, mais bon.
Voilà, alors justement, voilà. Vous savez, quand on parle de sommes astronomiques, quand on parle d'un joueur en disant qu'il a été vendu tant de millions, etc., ces millions, ils vont à qui ? J'ai cru comprendre que ce n'était pas pour le joueur directement.
Non, alors il s'agit d'une négociation de ce qu'on appelle les droits économiques du joueur. Donc lorsqu'un joueur signe un contrat pour une durée, par exemple, de 4 ans, il est censé appartenir à ce même club pour les 4 ans. Si quelqu'un désire racheter le joueur avant le terme du contrat, il faut faire une négociation et donc ça donne lieu au paiement d'un transfert.
Qui va dans les caisses de l'autre club et non pas dans les poches
du
joueur.
Moi, je pensais que c'était le joueur voilà. qui ramassait tous les sous et vous.
Mais il arrive que le joueur se retrouve en situation de joueur libre, qu'il est en fin de contrat. Et là, l'intégralité des sommes
lui revient.
Lui reviennent. Donc, il peut prendre ce qu'on appelle une prime à la signature, une prime de talent, et puis des salaires naturellement importants, dans la mesure où il n'y a pas d'indemnité de transfert à payer.
Merci beaucoup, Bruno Satin, d'avoir évoqué ces questions avec nous. Ce matin en direct sur Europe 1 et bonne chance pour la fin de ce mercato.
Merci beaucoup.
Europe 1, il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient avec des nuages, de la pluie mais aussi du soleil. Il y en aura vraiment pour tous les goûts.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Avant de retrouver le journal de 6h30, voici la météo de Céline Dacosta. Une journée encore perturbée, ma chère Céline.
Oui, de faibles averses quasiment partout ce matin. Un petit peu de neige sur les reliefs. Et puis ce risque d'avalanche toujours très élevé sur les Savoies de 4 sur 5. Là où le temps est plus calme, avec même des éclaircies pour ce matin, c'est entre la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne, le nord de la région centre. Et puis également près de la Méditerranée, sur l'est de la Corse, avec un vent toujours très fort, hein, 100 km à l'heure en rafale pour le Mistral et la Tramontane. Les températures, elles baissent un petit peu, mais restent 12 pour la saison. La moyenne ce matin va de 3 à 10 degrés, un petit peu plus près de la Méditerranée.
Cet après-midi,
retour de quelques larges éclaircies sur une moitié ouest. Ciel mitigé avec éclaircies, nuages et encore un petit peu de pluie pour les autres. Toujours de la neige sur les reliefs. Grand soleil près de la Méditerranée, toujours grâce au vent. Et puis ça restera en revanche bien couvert et pluvieux des Landes aux Pyrénées-Orientales. Pour les températures, 7 degrés à Lille, 8 à Clermont-Ferrand, 9 à Paris, 10 à Tours et La Rochelle, 12 degrés attendus à Agen, 14 à Nîmes et même 18 degrés pour Bastia.
Merci Céline Dacosta.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos rigoureuses, supplément bonne humeur aux fans. Bonne humeur qui doit beaucoup au tonus hors norme d'Eva Rock, qui entre ses activités de rédactrice en chef, ses chroniques médias et ses fonctions de coordination, qui ne lui prennent jamais plus de 17 heures par jour, parvient à rester vrai. Constamment au top, alerte et vive en toutes circonstances, comme on le constatait encore vendredi matin.
Je crois que je vais avoir besoin d'un café, je suis en train de tomber.
À suivre, politique, économie, médias, les trois fantastiques vous éclairent. Au programme notamment ce matin les amis, comment comprendre les mots d'Emmanuel Macron ? Beaucoup trop de Français ont oublié le sens de l'effort. Peut-être en y voyant un moyen de flatter l'électorat de droite, nous dira Mickaël Darmon. Ce sera juste après le journal de ce journaliste d'excellence qui connaît sa valeur. Et ne s'étonnez donc pas vendredi de l'apparition d'une page de pub juste avant son journal. Comme par hasard.
Mais maintenant ils mettent une pub juste avant le journal. Bien sûr, parce qu'ils savent. Jackpot.
Préparez-vous pour le journal du Moneymaker, David Doucan.
À vous écouter Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, mon cher David Doucan, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une, David, ce matin.
34 questions, le président de la République nous a écrit une lettre pour fixer les contours et l'objectif du grand débat qui commence demain. Le parti d'opposition, les Républicains, a l'intention d'y participer. Information Europe 1 dans un instant. L'émotion d'un quartier, celui de la caserne des deux pompiers tués en opération dimanche matin. Reportage à suivre. Et enfin, c'est un procès qui va faire du bruit, celui de deux policiers d'élite accusés de viol. Ils sont jugés à partir d'aujourd'hui.
Europe 1.
Le grand débat commence donc demain. Le président de la République espère dans une lettre aux Français qu'un maximum de citoyens décident d'y participer. Eh bien, il y a une formation politique qui le prend au mot. Les Républicains, le parti de Laurent Wauquiez, va prendre toute sa part dans cette concertation. Les informations d'Aurélie Herbemont.
Comment ça marche pour présenter ses contributions ? C'est la question qui agite le cabinet de Laurent Wauquiez. Car chez LR, on veut absolument participer à ce grand débat en préparant des contributions dès que le mode d'emploi sera connu. on a intérêt à ce que ce débat se fasse, assume un proche de Laurent Wauquiez. Objectif, retrouver de la visibilité en déclinant les propositions de la droite, alors que la crise des Gilets jaunes ne profite pas du tout à LR ni à son président. C'est inquiétant, lâche un élu. Wauquiez n'imprime pas et personne ne monte dans les partis républicains. Le moment ne nous est pas favorable, reconnaît-on à la direction. Il faut en sortir. La droite mise donc sur le débat de fond pour reprendre des couleurs. Nourrir le débat sera en tout cas un moyen de se différencier des extrêmes. Les insoumis qualifiant ce débat de grande entourloupe. Le Rassemblement national n'étant guère plus emballé. Nous, on ne joue pas le jeu de la meilleure opposition, mais de la meilleure alternative, martèle un proche de Laurent Wauquiez, même si pour l'instant... ça ne prend pas.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Laurent Wauquiez qui a lui aussi publié une lettre hier sur Facebook dans laquelle il met en garde contre, je cite, le risque d'un artifice grossier. C'est précisément ce que veut éviter Emmanuel Macron. Dans le texte présidentiel, il définit le débat, ni une élection, ni un référendum. Il liste une trentaine de questions, fiscalité, modèle social, démocratie, écologie, mais aussi... immigration et laïcité. Le président trace cependant quelques lignes rouges, à savoir les réformes votées depuis mai 2017, comme par exemple celle de l'impôt sur la fortune. Enfin, le chef de l'État promet qu'il rendra compte directement de ce débat dans le mois suivant la fin de la concertation. Dans la journée, le Premier ministre Édouard Philippe publiera un communiqué précisant l'organisation technique et Emmanuel Macron donnera officiellement le coup d'envoi demain lors d'un déplacement dans l'Eure à Grand-Bourtereuld, où il s'exprimera devant 600 élus locaux.
On va parler 6h33.
Les suites de la terrible explosion qui a endeuillé Paris samedi matin. 4 personnes ont été tuées, dont 2 pompiers qui étaient en train d'intervenir sur la fuite de gaz. Ils venaient de la caserne Château d'Eau dans le 10e arrondissement de Paris. Le caporal-chef Simon Cartanaz et le première classe Nathanaël Josselin, 27 et 28 ans. Hier soir, les habitants du quartier sont venus spontanément exprimer leur sympathie devant la caserne. Reportage Pierre Herbulot.
Les gros camions rouges, les sirènes, les entraînements des pompiers, c'est le quotidien de tous les habitants du quartier. Voilà pourquoi Élise se sentait obligée de venir rendre hommage aux victimes avec ses enfants.
C'est des jeunes qui sont complètement dévoués, qui sont d'une humanité extraordinaire. Moi, donc, ils ont sauvé la vie de mon petit garçon qui avait eu un accident domestique quand il avait 2 ans. Depuis, on est extrêmement reconnaissants et on voit à quel point ils sont humains. Enfin, j'ai pu le mesurer à ce moment-là, donc ça nous bouleverse de nous dire que... qu'il a pu leur arriver malheur.
Octave, lui, se souvient surtout des pompiers déguisés en Père Noël pour la fête de son école collée à la caserne, même si, à 7 ans, il a déjà compris beaucoup de leur métier et de ce qui s'est passé samedi.
Pour l'intervention qu'ils ont fait pendant l'explosion, je leur dis bravo parce que ça, c'était très courageux. Et je suis un peu triste parce qu'il y en a 2 d'entre eux qui sont morts et... je leur dis bravo parce qu'ils ont accepté de mourir pour sauver des gens.
Quand il sera grand, il l'a décidé. Il sera lui aussi pompier pour sauver des vies et rendre fière sa maman.
Pierre Herbulot pour Europe 1.
Le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris sera l'invité d'Europe 1 tout à l'heure. Le lieutenant-colonel Gabriel Plus répondra aux questions de Nico Sayegas à 7h45. À suivre dans ce journal, le procès du viol du 36 quai des Orfèvres. 2 policiers sont sur le banc des accusés à partir d'aujourd'hui. On vous raconte tout dans un instant. A tout de suite.
Il est 6h35. Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. Le procès commence aujourd'hui et doit durer jusqu'au 1er février.
Oui, cela se passe aux Assises de Paris et les 2 prévenus sont des policiers de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. L'affaire avait fait grand bruit il y a un peu moins de 5 ans. Ils sont accusés d'avoir violé une touriste canadienne au sein même du prestigieux 36 quai des Orfèvres qui, à l'époque, abritait la police judiciaire. Le rappel des faits présumés, Chloé Triomphe.
Ce soir-là, Emily Spanton, venue à Paris en touriste, passe sa soirée au Galway, un pub irlandais où elle rencontre tout un groupe de policiers de la BRI. La soirée prend une tournure alcoolisée. La jeune femme flirte ostensiblement avec l'un d'eux qui lui propose d'aller visiter les bureaux. Sur le chemin en voiture, la jeune touriste flirte avec un second policier et vers minuit 40, elle franchit le porche du 36 quai des Orfèvres. Mais un peu plus d'une heure plus tard, Emily Spanton redescend en état de choc. Elle affirme avoir été violée. Immédiatement, l'affaire créer un scandale au sein de la police. Les mises en cause effacent des SMS à caractère explicite comme « Dépêche, c'est une partouzeuse », tandis que la jeune femme évoque des viols par plusieurs fonctionnaires. L'affaire conduira la justice à un prélèvement inédit d'ADN d'une centaine de fonctionnaires. Mais la première décision des juges d'instruction conclut pourtant à la fin des poursuites au motif que les mensonges des mises en cause s'expliquent plus simplement que les incohérences de la touriste canadienne. Il aura fallu un appel du parquet et de la partie civile pour arriver finalement à ce procès dans lequel la jeune femme maintient intégralement sa position et où les policiers se disent impatients de démontrer leur innocence.
Chloé Triomphe pour Europe 1. Prenez-vous suffisamment soin de votre foi.
Non.
Je ne parle pas, mon cher Mathieu, de votre corpus spirituel, mais bien de l'organe. La question est importante puisque 20%... Oui, vous avez apprécié cette...
C'est une astuce. Très bien trouvé.
Et c'est une question importante, le foie, parce que 20% de nos concitoyens souffrent d'une maladie de cet organe. C'est le cri d'alarme des spécialistes qui se réunissent aujourd'hui et demain en congrès à Paris. Ève Roger.
Un Français sur cinq souffre d'une maladie du foie et parfois même il l'ignore car ce sont des pathologies silencieuses qui mettent des dizaines d'années à se déclarer. Alors ça va d'un trouble bénin, un foie trop chargé en graisse, à la fameuse maladie du foie gras que les experts ont baptisée NASH qui peut elle-même dégénérer en cancer. En France, on dénombre 9000 cas par an, un mal redoutable, 80% des patients en meurent. Mais bonne nouvelle, il y a maintenant un traitement qui marche et les résultats seront présentés dans la journée. Les détails avec le professeur Marcelin, hépatologue à l'hôpital Beaujon à Paris.
Ce sont des traitements qui stimulent la réponse immunitaire du sujet contre les cellules cancéreuses. Jusqu'à présent, on n'avait qu'un seul médicament qui donnait des résultats avec une petite augmentation de la survie de quelques semaines à quelques mois. Là, on parle d'augmentation de survie de plus d'un an, voire davantage. Et on a observé des cas de guérison.
Ces traitements ne seront pas disponibles avant 5 ans, mais avant, les spécialistes insistent, l'urgence aujourd'hui, c'est de se faire dépister pour connaître l'état de santé de son foie. Une simple prise de sang suffit.
Information signée Ève Roger, la chef du service Société d'Europe 1.
Merci, c'était le journal de David Doucan. David, qui en grand professionnel, le sait parfaitement, le plus dangereux pour un présentateur de journal, c'est le fou rire. Oui. Une perte de son foie qui peut hélas arriver à n'importe quel moment, et même au meilleur.
J'étais très fébrile.
Le président était d'ailleurs hier à McAllen, ville frontalière texane. Je vais y arriver. Les démocrates s'occupent, par exemple, dans cet atelier tricot à Washington. Reportage Sonia Ridic.
L'atelier tricot l'a tué.
Bah, attendez. On fait le break.
On fait
le shutdown et c'est l'atelier tricot.
C'est vrai que l'atelier tricot, vous venez comme un jeu sur la soupe. Ouais. J'aime me fendre la poire. Allez, Céline, passons plutôt à la météo.
Oui, avec encore beaucoup de vent près de la Méditerranée. Et ça dure, hein, depuis le 5 janvier. Tramontane et Mistral ont dépassé tous les jours les 100 km à l'heure. Ça devrait faiblir un petit peu demain mardi. Vent glacial qui a une conséquence positive, au moins une, c'est que l'ensoleillement est particulièrement important depuis le 1er janvier sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Ce qui n'est pas le cas pour les autres, puisque le ciel est encore nuageux, faiblement pluvieux quasiment partout aujourd'hui, ce matin. De la neige sur les reliefs et un risque d'avalanche de 4 sur 5 sur les Savoies. Il reste quand même un petit peu de soleil ce matin sur le nord-ouest et ce sera pour toute la moitié ouest cet après-midi.
Merci. Merci Céline.
Et les 6h41, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, d'enquêtes, d'interviews, mais ponctuées aussi, c'est la nature de moments de détente. Entre des journalistes qui, sous leur carte de presse, n'en sont pas moins des hommes et des femmes avec leurs désirs, leurs pulsions. Et en tant que meneur de cette tranche, qui est, je le rappelle, techniquement un 5 à 7, je me dois parfois d'offrir à mes consoeurs Céline et Eva un petit moment de bonheur.
Faut que j'enlève mon... J'ai trop chaud. Quoi ?
Je te regarde, je sais pas loin.
Profite.
Bah oui, je profite. Attends.
Mais rhabillons-nous, car à fois politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent au sommaire ce matin. L'analyse par Mickaël Darmon de la phrase polémique du président de la République. Comment comprendre cette sortie ? Beaucoup trop de Français ont oublié le sens de l'effort. Et puis, Huawei, un dirigeant arrêté en Pologne pour espionnage, le géant chinois de l'électronique fait peur, en tout cas avec celle de Tarly.
Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Une lettre pour sortir de la crise. Le président de la République a écrit aux Français un courrier qui définit le grand débat. Ni une élection, ni un référendum, mais une liste de questions sur lesquelles nous sommes invités à réfléchir. Le Premier ministre précisera en fin de journée l'organisation technique de cette concertation nationale. Deux policiers du 36 Quai des Orfèvres sont aux assises à partir d'aujourd'hui. Ils sont accusés d'avoir violé, il y a près de 5 ans, une touriste canadienne dans les anciens locaux de la police judiciaire. Le procès doit durer jusqu'au 1er février. Enfin, César et Baptiste a été expulsé de Bolivie, il est en route pour l'Italie où il doit atterrir ce midi. Il sera immédiatement emprisonné. L'ancien activiste d'extrême gauche est condamné à la perpétuité pour 4 meurtres.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils arrivent, comme aurait dit Jacques Martin, sous vos applaudissements. Leurs parents sont dans la salle, caméscope à l'épaule, Eva Rock pour la télé, Axel de Tarlé pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. Ils sont les trois fantastiques. Pourquoi pas 4? Après tout, on pourrait compter Céline Dacosta.
Oui, on pourrait.
Mais oui.
On pourrait.
Au gazou. Et non pas au gazou. C'est pas la même chose. Le gazou, c'est à... J'en ai un gazou à la maison. Ah, oh, je ramènerai mon gazou, tiens.
C'est quoi un gazou?
Tu sais, c'est un... Tu fais...
Je connaissais pas.
C'est un gazou, non?
Un casou.
Ah, c'est un casou. Ça ressemble à un...
Un casou.
Ah, c'est un casou. Ah, c'est le casou.
Voilà, donc je disais, voici les trois hein, fantastiques. Oh, et Mickaël Darmon, commence par vous. Et la politique, lors de la galette des rois de l'Elysée, Emmanuel Macron a loué le sens de l'effort devant les artisans boulangers, tout en regrettant que de nombreux Français ne le partagent pas. Une déclaration qui a évidemment fait réagir. Mais selon vous, c'est un propos parfaitement assumé. Pour quelle raison?
Et oui, effectivement, Emmanuel Macron ne dévie pas de sa trajectoire politique. Il veut continuer à consolider son socle électoral et maintenir une partie de l'électorat de droite. Et quoi de mieux pour cela? Eh bien, de profiter de l'occasion, comme il a fait, de ce rituel, hein, lorsque les artisans et apprentis de la boulangerie viennent offrir au président de la République leur galette des rois. Et s'il n'y a pas de fèves à l'intérieur, puisque le président ne peut tirer les rois, eh bien, il a décidé de truffer la galette d'une petite fève politique pimentée à la sauce Macron pour bien faire comprendre qu'il ne change pas de projet. Donc, malgré la crise des gilets jaunes, et c'est la raison pour laquelle également, dans sa lettre aux Français, on comprend, et il le dit, il ne reviendra pas sur l'ISF.
Et justement, il y a une partie symbolique de cet électorat de droite qui a décidé de préserver, voire de protéger Emmanuel Macron en se tenant en retrait de la crise, ce sont les chasseurs.
Et oui, effectivement, les chasseurs, vous savez, n'ont pas retourné leur gilet orange et en grande majorité n'ont pas adopté le jaune, même s'ils ont fait partie au départ des comités départementaux des automobilistes en colère. Mais alors pourquoi cette neutralité? Eh bien parce que leur fédération a donné par écrit des consignes extrêmement fermes aux adhérents. Hein, dans des documents qu'on a pu consulter, il est rappelé que le président de la République a respecté ses engagements vis-à-vis donc, des chasseurs et que cette parole donnée mérite respect, et le tout dans un style assez direct avec des phrases du style, hein, je cite, « Qu'avons-nous à faire dans ce merdier, dans cette guerre civile qui prépare, ne jamais soutenir ceux qui font pour tuer policiers et gendarmes », a écrit Willy Schren, le président de la Fédération des chasseurs. Alors, c'est un lobby extrêmement discipliné, près de 4 millions de familles en lien avec le monde de la chasse, une population qui compte hein, dans la ruralité et à laquelle donc Emmanuel Macron est très attentif. Nicolas Hulot en sait quelque chose. Et dans le débat national eh bien, qui commence, les gilets oranges qui votent souvent à droite, même très à droite, peuvent jouer le rôle de contrepoint donc, des gilets jaune, et donc les chasseurs sont à l'affût pour protéger Emmanuel Macron.
Merci Mickaël pour cette explication politique. On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlé. Le géant des télécoms chinois Huawei se retrouve à nouveau au cœur d'une histoire d'espionnage.
Et oui, puisqu'on apprend en fin de semaine dernière qu'un salarié de Huawei en Pologne, alors qu'il s'appelle Wang Weijing, a été arrêté pour espionnage. Donc ça alimente le feuilleton. Vous savez que Huawei est soupçonné d'espionnage partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on parle là.
On dit Huawei ou Huawei,
je sais pas. Je sais pas comment on dit.
On dit Huawei, visiblement.
Huawei. Donc Huawei est le numéro un mondial des équipements télécom en France. Par exemple, les réseaux utilisent des équipements Huawei, des boîtes Huawei. Et donc la crainte, eh bien, c'est de voir Huawei non pas être l'œil de Moscou, mais l'œil de Pékin, vous voyez, via sur tous les réseaux Internet qu'il contrôle. Soupçon légitime quand on sait que le patron de Huawei est un ancien officier de l'armée chinoise et qu'en Chine, l'État et l'armée est partout. Enfin, la crainte est telle que Donald Trump a interdit ces équipements Huawei dans les réseaux télécoms. Vous avez la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie également qui ont interdit les équipements Huawei. Et en France, alors il n'y a pas d'interdiction officielle, mais on demande aux opérateurs de ne pas mettre de matériel Huawei au cœur des réseaux. Par exemple, en Ile-de-France, il n'y a pas d'équipement Huawei.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension protectionniste, hein, tout simplement, dans ces interdictions? Donald Trump, on le sait, est engagé dans une guerre commerciale contre la Chine.
Bah, bien sûr, les Américains ne supporte pas de constater qu'aujourd'hui le numéro 1 mondial des équipements télécoms, donc une technologie clé, est un Chinois. Donc effectivement, en mettant des bâtons dans les roues de Huawei, on empêche le Chinois d'imposer ses normes. Mais après tout, les Chinois ont fait la même chose. Vous savez, ils ont interdit chez eux les GAFA. Et donc finalement, les Américains rendent la monnaie de leur pièce.
Juste retour des choses finalement. Voilà. On passe à Eva Rock pour savoir ce qu'on va regarder à la télé ce soir.
Eh bien, une petite séance de cinéma pour débuter cette semaine avec un film de 1995 signé Gus Van Sant, Prête à tout. C'est sur Arte à 20h55. L'histoire de Suzanne, qui est prête à tout pour devenir une vedette de la télé. Et son discours est pour le moins bien rodé.
Vous n'êtes vraiment personne en Amérique si vous ne passez pas à la télé. Lorsqu'on passe à la télévision, on apprend qui on est réellement. Parce qu'il n'y a pas de raison de bien se comporter dans la vie si personne ne vous regarde. Le fait de vous savoir regarder fait de vous quelqu'un de meilleur.
Dans le rôle principal, la sublime Nicole Kidman. La voilà dans la peau d'une sorte de Barbie un peu écervelée, mariée à Larry, qui est incarné par le sublime Matt Dillon. Elle tente, elle, de percer dans le milieu médiatique en présentant la météo sur une pauvre chaîne locale. Elle va rencontrer trois jeunes ados paumés et elle va mettre en place un scénario redoutable pour arriver à ses fins. Alors, outre la qualité de l'interprétation, il faut aussi citer Joaquin Phoenix, le film raconté comme une sorte de documentaire, là, quand on vient de l'entendre, elle était face caméra, elle brille aussi par sa réalisation et ses dialogues. C'est d'ailleurs à voir en version originale si vous pouvez. Exemple, quand Larry rejoint Suzanne au bord de la piscine dans laquelle jouent des enfants.
J'aimerais bien en avoir des comme ça à la maison. Qu'est-ce que tu en penses, Suzanne ? Suzanne ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Que si tu voulais une babysitter, tu n'avais qu'à épouser Mary Poppins.
Et voilà, Nicole Kidman. Au-delà du côté polar, prête à tout et surtout une critique cinglante du système médiatique et du rêve américain, c'est à voir vraiment pour le seul personnage de Nicole Kidman qui n'a jamais été aussi détestable et aussi odieuse dans un rôle. Moi, je ne l'avais jamais vu comme ça. Et puis, je vous signale par ailleurs, donc ça, c'est sur Arte à 20h55, mais je vous signale par ailleurs, si vous aimez les documentaires politiques, BFM propose une enquête sur la dynastie Le Pen. C'est un sujet très bien fait, mais il n'y a pas de révélation. C'est à voir à 20h55. À 20h50, si vous aimez vraiment ça.
Voilà. Merci beaucoup, Eva Roque. Axel de Tarlet, Mickaël Darmon, les trois fantastiques seront de retour demain, peu avant 7h15. Et Céline, j'ai vérifié, hein, Annie Cordy chantait bien le kazoo, pas le gazou.
Si vous jouez du kazoo, venez jouer avec nous.
Toute une époque.
C'est pas faux. Il est 6h52, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprêtent à s'éclipser, mais l'heure n'est pas à la mélancolie, car vous le savez, Nikos Aliagas arrive, et je peux vous dire qu'il est en forme. Je l'ai croisé tout à l'heure aux toilettes, le spleen du lundi matin, lui, il a pas l'air de connaître.
C'est lundi,
le meilleur est à venir, le débrief de la matinale de Nikos à suivre.
Il est 8h54, Mathieu Noël.
Comme la Lune s'efface respectueusement devant l'astre solaire lorsque celui-ci émerge sur la ligne d'horizon, Debout les copains s'apprête à céder sa place au 7-9 d'Europe 1, juste avant une ultime formalité. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Un débrief que j'aimerais dédier aujourd'hui à une femme exceptionnelle. Tour à tour chroniqueuse, meneuse de jeu et météorologue, ses interventions, toujours à propos, font le sel de nos matinales.
Queer Center.
Oui, Céline Dacosta, ce matin, je vous dédie ce débrief. Vous, l'égérie vocale de Queer Center et d'autres grandes marques leaders de leur segment.
MMA.
Vous qui surtout présidez l'association Aliagouz, le premier fan club franco-portugais réunissant les fanzous de Nikos Aliagas. Alors, vous êtes évidemment nombreux, parmi les membres historiques, il y a notamment Hélène Zélani, mais Céline est clairement la fan numéro 1. Car à quoi reconnaît-on la fan numéro 1 d'une star ? À sa capacité à s'enthousiasmer pour tout ce que fait son idole. Que Nikos reprenne Jean-Jacques Goldman a cappella
« J'irai au bout de mes rêves ».
Moi, je trouve ça très bien.
Ou Jessie Garonne.
C'est lundi.
Moi, je trouve ça très bien.
Ou même le week-end, lorsqu'elle l'accompagne au golf de Châtenay-Malabry.
Regardez mon swing, regardez bien, regardez.
Oh, génial, bravo.
Alors forcément, pour la présidente du fan club des Aliagouz, pouvoir assister chaque matin de si près au travail d'écriture de celui qu'elle compare souvent à Jean-Paul Sartre, c'est un bonheur qu'elle a du mal à dissimuler.
Vous nous racontez des histoires sans nous raconter des bobards. C'est la revue de presse de David Abiker.
C'est bien, c'est vachement bien. On raconte une histoire sans nous raconter des bobards. Tu l'as trouvé là maintenant ou tu l'avais déjà ?
Et oui, comme disait Obispo, c'est ça être fan. En même temps, comment ne pas être fan de Nikos Aliagas ?
Oui,
Nikos,
c'est un être
hors norme qui, contrairement au commun des mortels, rajeunit d'année en année. En 2018, il serrait encore la main de ses collègues, comme un quadragénaire lambda. En 2019, désormais, il laisse les poignées de main au Yeuve. Lui, maintenant, il check.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Tout à l'heure, on a fait un check tous les deux. Oui. On s'est fait vanner par notre patron de l'info en régie.
On est cool, c'est comme ça.
Check.
Allez, avec plaisir. Moi, j'assume.
Wesh, ma gueule. Je te laisse, j'ai ma trottinette qui est en double fil. Allez, Nikos, pour finir en Pour finir en beauté, deux secondes de David Bowie.
Let's dance.
Merci. Ce message d'Amanda Lira à l'instant, on s'y croirait. Que de souvenirs.
Ah là là.
Bonne journée à tous les amis.